Investir à plusieurs.
C'est une plateforme qui aide les entreprises à automatiser une partie de leur prospection et donc à rentrer en contact avec leurs futurs clients. On a plus de 10 000 clients basés dans 85 pays et on a une croissance exponentielle depuis nos premiers jours. On a aussi réussi à construire la plus grosse communauté autour des sales automation qui s'appelle la Lemlist Family, où on partage beaucoup de conseils sur comment faire sa prospection. Alors au tout début, en fait, moi j'étais avec mon agence d'acquisition, j'étais à Station F, qui est un incubateur à Paris, un grand espace de coworking.
Je crois le plus gros, si je ne m'abuse.
Ouais, c'est ça, c'est le plus gros au monde. Et dedans, j'avais rencontré deux frères développeurs, Vianney et François. Ouais, alors la raison pour laquelle j'avais lancé la chaîne YouTube, c'est déjà à l'époque, j'étais banni de LinkedIn. Donc je me suis dit, tiens, c'est cool, je vais tester un autre réseau social. Et en parallèle à ça, en fait, on avait pas mal recruté. Et je remarquais que les profils qu'on avait recrutés, ils avaient un peu peur de tester des choses, ils avaient peur de se tromper, ils avaient peur d'échouer. Et donc, je me suis dit, je vais leur montrer l'exemple, tu vois.
Génie, talent, métier, débrouillardise. Il faut admettre que tout homme, quel qu'il soit, est un mélange de ces quatre facultés. Tout est dans leur proportion. Je suis Guy Berton, l'entrepreneur multirécidiviste, fondateur d'Investir à plusieurs, cabinet de conseil en management et administration d'affaires. Avec Débrouillard, je vous propose de rencontrer ensemble des personnes talentueuses dans l'univers des affaires, du sport, de l'art, des associations et même de la politique, prêtes à nous dévoiler leurs inspirations, leurs prises de risques, leurs réussites, leurs échecs et toutes les leçons qu'elles en tirent. Je vous invite avec moi à plonger dans leur univers, s'inspirer de leur parcours afin de radicalement faire exploser nos objectifs. Parce que seul on va plus vite, ensemble on ira plus loin.
Bienvenue tout le monde pour ce nouvel épisode de Débrouillard. Aujourd'hui, je suis avec Guillaume Aubèche et je suis super content de l'avoir sur le podcast aujourd'hui parce qu'on va évoquer plein de sujets qui me tiennent à cœur, notamment le fait de créer une boîte de toutes pièces et de l'amener jusqu'à près de 8 millions de dollars de CA en moins de 4 ans, tu vas me corriger, en bootstrap surtout, 3 ans et demi, yes. Guillaume, avant d'évoquer tous ces sujets-là, notamment aussi comment réussir à force d'itération de faire grossir son entreprise, je te proposerai de te présenter succinctement.
Ouais, merci beaucoup de m'accueillir sur le podcast, très content d'être ici. Je m'appelle Guillaume Aubèche, je suis le CEO et cofondateur de Lemlist. Lemlist, c'est une plateforme qui aide les entreprises à automatiser une partie de leur prospection et donc à rentrer en contact avec leurs futurs clients. On a lancé ça début 2018, donc ça va faire 3 ans et demi. Aujourd'hui, on est 40 employés dans 6 pays différents. On a plus de 10 000 clients basés dans 85 pays. Et on a une croissance exponentielle depuis nos premiers jours. On a aussi réussi à construire la plus grosse communauté autour des sales automation qui s'appelle la Lemlist Family, où on partage beaucoup de conseils sur comment faire sa prospection. Et ça a été une des clés de notre croissance rapide.
Yes, on va essayer de revenir dans le détail sur Lemlist. Déjà, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu tombes là dans l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est avant Lemlist, est-ce que tu as une autre expérience entrepreneuriale?
Ouais, bien sûr. En fait, moi, à la base, je suis ingénieur. Ensuite, je suis parti voyager pendant un an. J'avais jamais eu l'occasion de voyager avec mes parents parce que mes parents ont pas beaucoup. Je viens d'un milieu assez modeste. Donc, j'avais économisé pendant toutes mes études. J'ai un peu fait tous les jobs qu'on pouvait faire, vendeur, babysitting, donner des cours. Enfin bref, je faisais tout pour mettre de l'argent de côté. Et à la fin de mes études, je suis parti voyager pendant un an. Et en voyageant, j'ai eu un peu ce sentiment de liberté parce qu'en gros, ce que j'avais fait à ce moment-là, c'est que j'avais utilisé les réseaux sociaux pour me loger gratuitement chez les gens partout autour du monde. Donc, pour voyager avec un budget le plus minime possible. Et en rentrant à Paris, j'avais été accepté à HEC, donc en business, parce que j'avais envie, en gros, d'apprendre à lancer un business. Et pour ça, il fallait que je sois bon en business. Donc, je m'étais dit, je vais aller en école de commerce, ce qui n'était pas forcément le truc le plus logique avec le recul, parce que quand je vois tout ce qu'on apprend quand on se lance versus ce qu'on apprend à l'école, ça a rien à voir. Mais arrivé à HEC, je me suis dit ok, bon, l'école.
Même pour HEC, tu m'excuses de te couper. Même pour HEC, qui pour beaucoup de personnes, C'est quand même un privilège parce que si on regarde la plupart des top players, bah, à chaque fois, il y a quand même le cachet associé sur le CV.
Ouais, c'est sûr. Après, au final, tu vois, moi, je me suis rendu compte que ce que j'ai fait, c'était une année de master. Donc, c'est un master spécialisé ou Master of Science, comme ils appellent ça. Et en fait, honnêtement, c'était cool parce que oui, j'ai appris un peu les bases, mais en vrai, tout ce qui me sert aujourd'hui dans le business, c'est pas du tout ce que j'ai appris à HEC, tu vois. C'est des choses que j'ai appris directement sur le tas, en testant, en lançant, en itérant. Et du coup, en parallèle d'HEC, j'avais lancé un business avec mon père. Mon père, lui, il savait faire de l'impression sur du tissu. Donc, on a fait une boîte de t-shirts ensemble. Moi, j'étais censé m'occuper de la partie business. Et lui, du coup, de la partie plus production. Donc, je lui mettais beaucoup de pression parce que j'étais persuadé que quand on lancerait le site, on allait recevoir des dizaines et des dizaines de commandes. Sauf qu'en fait, au moment de lancer le site, on a eu genre 6 commandes. C'était que la famille et les potes. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, putain, tu vois, toute la stratégie que j'avais imaginée dans ma tête en me disant, on va avoir des centaines ou des milliers de commandes. À partir de là, il va y avoir du bouche à oreille et ça va décoller. Bon, en fait, tout s'est effondré à ce moment-là. Et à partir de ce moment, c'était un peu difficile parce que j'essayais de trouver d'autres moyens de générer des ventes et tout. Mais en fait, je galérais et la relation avec mon père, elle se détériorait un peu. C'était un peu compliqué. Du coup, j'ai un autre pote d'HEC qui m'avait proposé de le rejoindre en tant que cofondateur dans son agence d'acquisition. Donc là, l'idée, c'était d'aider des gens à trouver leurs clients. Moi, je savais que c'était un problème que j'avais eu quand j'avais lancé mon business avec mon père. Donc, je me suis dit, bah, cool, c'est sûr qu'il y a d'autres personnes qui ont ce problème. Donc, j'ai passé quasiment 8 mois avec lui où on a réussi à générer des millions d'euros de chiffre d'affaires pour nos clients en leur faisant toute leur prospection. Et après ça, du coup, j'ai décidé de lancer Lemlist parce que je me disais, bah, j'ai envie d'un projet où potentiellement on crée une plateforme qui va aider les entreprises à faire ce qu'on faisait nous à l'époque.
Du coup, je vais un peu revenir sur la plateforme d'acquisition. C'était multiplateforme ou c'était juste sur un canal
Ouais,
bien précis?
l'agence qu'on avait, en fait, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on utilisait en gros plein d'outils qui sont maintenant nos concurrents avec Lemlist pour faire justement de l'acquisition, donc envoyer des campagnes de mail. C'était essentiellement du mail.
Ah, juste du cold mailing, quoi. Il n'y avait pas
Ouais, c'est
de
ça.
Facebook ads et.
Non, non, non. Vraiment, c'était très simple, que du mail.
Nice. Et pour revenir sur l'année, c'est un petit peu la suite logique de, j'imagine, des frustrations peut-être que tu aurais rencontrées pendant ce que ton aventure d'avant avec l'agence d'acquisition.
Ouais, exactement. En fait, j'utilisais vraiment les outils, tu vois, pour faire de la prospection. Et en fait, tous les outils, globalement, tu vois, ils te disaient, tu peux mettre tes ventes en autopilote, tu peux mettre tes équipes commerciales en autopilote, etc. Sauf que dans les faits, en fait, quand tu reprends un petit peu ce que c'est la prospection, c'est de la construction de relations. Il faut, dans un premier temps, créer un lien parce que les gens achètent un produit ou un service à partir du moment où ils font confiance à une personne. Et évidemment, après, si ils apportent une solution à un problème. Ça, c'est l'essence même, tu vois, de la vente. Quand tu crées un business, la plupart du temps, il faut que ton business apporte une solution à un problème pour qu'il y ait une relation commerciale qui puisse être rétablie. Et en fait, le truc, c'est que la plupart des gens disaient qu'ils pouvaient tout automatiser, mais dans les faits, c'est faux, tu vois. Dans les faits, tu peux pas automatiser toute ta prospection. Tu peux automatiser certaines parties, comme les relances, comme l'automatisation, tu vois, du tracking, etc. Mais typiquement, pour avoir les meilleurs résultats possibles en prospection, il faut contacter, tu vois, il faut passer du temps sur chaque prospect, aller regarder ce que la personne fait, essayer de trouver un peu plus de contexte, essayer de trouver un peu plus des points d'accroche. Et c'est comme ça que tu vas construire une relation et par la suite, potentiellement, établir une relation business.
Ok. Et l'analyse, comment est-ce que tu lances? Est-ce que est-ce que tu sais développer? Comment tu lances l'analyse au départ, le produit?
Ouais, alors au tout début, en fait, moi j'étais avec mon agence d'acquisition, j'étais à Station F, qui est un incubateur à Paris, un grand espace de coworking,
Je
on va
crois
dire.
le plus gros, si je ne m'abuse.
Ouais, c'est ça, c'est le plus gros au monde. Et dedans, j'avais rencontré deux frères développeurs, Vianney et François, qui eux, plus âgés que moi, avaient aux alentours, moi à l'époque, j'avais 26 ans, eux, ils avaient peut-être ouais, la quarantaine. Et donc, à ce moment-là, tu vois, on commence à discuter ensemble. Et on se rend compte que eux sont sur la fin d'un projet parce que ça décolle pas et qu'ils ont envie de lancer quelque chose de nouveau et que moi je suis chaud pour lancer quelque chose de nouveau. Donc en gros, on décide de mettre 1000 euros au capital, donc 300 euros chacun. Eux s'occupent de la partie du développement du produit et moi je m'occupe de tout le reste, donc la partie marketing, les premières interfaces du produit, etc., etc.
Mais pourquoi eux? En fait, c'est pas très très lourd. Enfin, c'est pas. Ils ont quand même beaucoup plus de bouteilles par rapport à toi. Ça fait une quarantaine d'années, j'imagine qu'ils avaient déjà une grosse expérience avant. Pourquoi est-ce qu'ils te font confiance et surtout pourquoi est-ce que c'est toi qui es en avant, quoi? Parce que tu l'as précisé dès le départ, tu es le CEO de la boîte. Comment ça se discute ça, la relation de confiance, comment ça se fait?
Ouais, bah écoute, c'est assez simple. En fait, à la base, ils avaient posté dans Slack, donc un outil qu'on utilisait pour communiquer avec toutes les startups qui étaient à Station F, pour avoir de l'aide sur un projet. Et du coup, j'avais décidé, tu vois, d'aller les aider un peu de façon gratuite. On a commencé un peu à bosser ensemble, du coup, sur un side project, quoi, tu vois, un truc qui avait rien à voir avec Lemlist. On a vu qu'on s'entendait bien et là, la relation de confiance a commencé à se créer. Eux, ils ont vu que moi, j'étais plutôt bon sur la partie business et que j'étais vraiment dans l'action, que j'étais un doueur, etc. Et moi, je voyais que eux, sur la partie tech, c'était la même chose. Donc, en fait, très rapidement, on s'est bien entendu là-dessus et on s'est dit, bah, on se lance et on verra bien ce qu'il adviendra, tu vois. Donc, on n'a pas signé de papier ou de trucs comme ça. On s'est juste lancé. On a dit, bah, on teste, on voit comment ça se passe au bout de 6 mois et on voit où on en est, quoi. Et 6 mois plus tard, on avait déjà fait pas mal de cash. Donc, on s'est dit, bah, go, quoi, tu vois, on continue et maintenant on peut officialiser tout ça.
Et à la base, est-ce que tu savais déjà exactement à quoi le produit devait ressembler, Lemlist? Est-ce que tu savais que c'était un outil d'automation, enfin, un autorépondeur, mais est-ce que dans les spécificités que tu as rajoutées sur ton produit, tu avais déjà tout défini dès le départ?
Non, pas du tout. En fait, au début, tu sais, tu as une idée un peu de ton produit. Après, tu le mets dans les mains des utilisateurs et tu te rends compte que il faut tout changer. donc c'est un peu comme ça, tu vois, t'évolues étape par étape. La première version du produit, c'était super moche. En plus, c'était difficile parce que tu vois, on arrivait sur un marché qui était ultra concurrentiel. Aujourd'hui, le marché, il est encore plus saturé, mais à l'époque, tu vois, c'était un marché tellement concurrentiel que toi, quand t'arrives avec un produit qui a été développé en même pas un mois, bah forcément que t'es largement en dessous de toutes les personnes qui ont créé le truc. Donc, faut que t'arrives à créer ta communauté, faut que t'arrives à avoir des gens qui sont motivés par la vision que tu as pour le produit. Et petit à petit, en fait, on a pris les feedbacks utilisateurs. Moi, si tu veux, j'ai fait le support pendant 1 an et demi, quoi. Donc, pendant 1 an et demi, ouais, c'était moi qui répondais à tous les messages dans le chat, tu vois. Mm-hmm. Et en fait, de par ça, bah, tu vois, j'avais une vision très, très claire du marché. J'ai pu parler à tous nos clients, utilisateurs, et je comprenais ce qui allait pas et ce qui devait être changé, quoi.
Et comment est-ce que... qu'est-ce qui différencie? Parce que justement, tu as dit que c'est un marché hyper saturé. Qu'est-ce qui va convaincre comme ça tes premiers utilisateurs à adopter la solution?
Alors, je pense que c'est un marché qui est saturé, mais c'est un marché où il y a quand même beaucoup de place parce que il y a beaucoup de gens qui sont pas éduqués, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont tester, par exemple... d'envoyer des campagnes d'email avec des templates, tu vois, qu'ils utilisent et qui sont prédéfinis pour faire leur prospection. Et ça, dans les faits, ça marche pas bien. Donc, en fait, tu vois, moi, j'arrivais avec quelque chose de nouveau où je disais la vérité, tu vois, j'ai toujours été sans filtre au niveau du business et j'expliquais aux gens, tu vois, c'est pas en envoyant juste des mails avec le prénom que vous allez réussir à avoir des bonnes réponses. Voilà comment vous devez faire de l'ultra personnalisation. Voilà ce que vous pouvez faire. Et à côté de ça, on avait aussi un différenciant qui était la personnalisation, puisqu'on pouvait insérer des images dynamiques. Donc, tu vois, tu pouvais prendre une photo de toi typiquement avec un gobelet Starbucks et mettre le nom de la personne dessus. Et rien que ça, tu vois, c'était un truc qui était assez différenciant, qui a fait parler de nous pas mal et qui nous a permis, tu vois, en tout cas, de générer l'intérêt des gens. Donc, les gens avaient l'intérêt. Ensuite, moi, je leur expliquais vraiment, genre, j'apportais de la valeur parce que je leur expliquais comment faire leur prospection, tout ça. Et petit à petit, avec le contenu qu'on créait, on avait des études de cas qui montraient les résultats que les gens avaient. Et petit à petit, en fait, tu te rends compte que tu arrives à convaincre les gens de venir t'utiliser ou en tout cas de te tester. Et quand ils ont des bons résultats, après, ils restent, tu vois. Donc, c'est toi, ton seul objectif, c'est de faire en sorte, quand tu lances un business, que tes utilisateurs, ils aient le meilleur ROI possible, tu vois. Et le meilleur ROI, pour nous, ça passe par du cash pour eux, en fait, parce que c'est le nombre de rendez-vous qu'ils vont réussir à avoir, tu vois.
Yes. En parlant de personnaliser en fait les emails, je crois que je suis tombé aussi sur ce type d'email là. C'était plutôt un tableau, mais je crois que ça a été toujours fait avec la liste, avec mon
Ouais.
prénom. Et en plus, ils ont poussé le truc très très loin. C'était un repartage, une assistante qui dit, hey, il y a Guy qui vient de s'inscrire au webinaire. Et je vois le mec, comment est-ce qu'ils font? C'est pas possible.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Et c'est cool, tu vois, ça crée un truc beaucoup plus humain et beaucoup plus sympathique, quoi.
Nice. Yes. Donc, raconte-nous, là, tu as dit ça fait 3 ans et demi et à peu près 8 millions de chiffres d'affaires, d'AER, c'est comme ça qu'on dit?
Ouais, c'est ARR, Annual Recurring Revenue. En fait, c'est ton revenu récurrent annuel. En gros, dans le monde des SaaS, donc des logiciels ou plateformes, tu vends des abonnements mensuels. Donc, on parle en général de MRR, ce qui veut dire Monthly Recurring Revenue ou revenu récurrent mensuel. Et en fait, pour avoir ton ARR, tu multiplies par 12. Donc, c'est un peu une extrapolation, mais en fait, comme il n'y a aucun mois où tu fais moins d'argent que le mois d'après, c'est assez vrai, quoi. Et c'est une métrique qui est assez juste.
Yes. Et en général, ce genre de chiffres-là, on les entend pour des boîtes quand même qui ont déjà levé quand même une certaine somme. Comment est-ce que c'est possible à partir de juste en bootstrapping comme ça d'aller avec des méthodes, j'imagine, non conventionnelles et itératives, de générer comme ça de la croissance continue. Est-ce que tu nous en parles? Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ces dernières années, comment est-ce que ça s'est fait, et surtout sur les derniers mois, comment tu as réussi quasi à doubler ce que tu as fait en presque 3 ans?
Ouais, alors déjà, il y a plusieurs trucs. Je pense à un point qui est super important, c'est de savoir que ton revenu, donc l'argent que tu fais, ton chiffre d'affaires en business, c'est toujours un indicateur qui a du délai, dans le sens, enfin, du retard. Donc, tout ce que tu fais aujourd'hui en business, ça aura un impact que dans 6 mois à 18 mois, tu vois. Donc, ça peut vachement prendre du temps. Donc, ça, c'est, il faut être très patient. Et en fait, le truc, c'est qu'on a décidé de faire des choses que les autres ne faisaient pas. Dans le sens où nos concurrents qui ont levé des centaines de millions, etc., eux, tu vois, ils dépensent énormément d'argent dans de la pub, ils dépensent énormément d'argent sur plein de canaux payants. Nous, on s'est dit, bah, on va faire tout l'inverse, on va prendre que les canaux gratuits. Et les canaux gratuits, c'est quoi? C'est une communauté. Donc, en fait, on a invité nos utilisateurs à rejoindre un groupe Facebook très rapidement. Et dedans, en fait, on pouvait échanger, les gens pouvaient poser leurs questions, tout ça. Et moi, ça me permettait de comprendre quels étaient, tu vois, les points bloquants pour chacun. Je créais le bon contenu qui allait avec, je repartageais le contenu à l'intérieur. À côté de ça, en fait, j'utilisais notre outil pour faire de la prospection. Donc, en fait, quand tu as un outil pour faire de la prospection, bah, autant l'utiliser, tu vois. Et donc, du coup, ça me permettait de choper des rendez-vous avec des prospects. Ces prospects-là, ensuite, je parlais avec eux de ce qui était un problème dans leur prospection actuelle ou ce qui allait pas. Donc, je leur apportais de la valeur. Après, potentiellement, ça, je les transformais en clients. Si je les transformais pas en clients, je les invitais à rejoindre la communauté pour qu'au moins ils puissent apprendre, tu vois, les meilleures méthodes et best practices. Plus ils restaient dans la communauté, plus ils voyaient, bah, à quel point l'Emlist, ça pouvait les aider. Et en fait, au bout d'un moment, ils faisaient le switch. Et donc, en fait, comme ça, tu crées un peu un cercle vertueux où ton seul objectif est vraiment, en fait, moi, je suis convaincu de ça, tu vois, c'est vraiment ça, c'est le conseil, je pense, qui a l'air le plus bateau possible, mais en vrai, c'est celui qui marche. Et en fait, le truc, c'est que un, il y a deux choses. C'est un, les choses simples sont les choses qui sont les plus compliquées. Parce que, en fait, plus c'est simple et moins tu te dis que c'est ce qui va avoir un impact sur ton business. Pourtant, c'est le cas, tu vois. Donc, tu as beaucoup de gens, tu vois, qui pensent à scaler leur business, machin et tout. Alors qu'en vrai, dans un premier temps, ils devraient être focalisés sur le service que tu donnes à tes utilisateurs. Moi, tu vois, genre, je répondais tout le temps au chat. Tu vois, genre, on a un service d'utilisateur. Même si les gens payent pas beaucoup d'argent par mois, bah, ils ont un service premium, quoi. Ils envoient un message dans le chat. Ils ont quelqu'un qui leur répond quasi en instantané. Enfin, toi, tu as du support tout le temps. C'est ultra important. Et ensuite, deuxième point, c'est vraiment aussi bateau, mais c'est à partir du moment où tu apportes de la valeur à des gens, il n'y a aucune raison qui fait que ces gens-là, un jour ou l'autre, ils vont pas commencer à payer pour ton service, tu vois, ou en tout cas te recommander. Parce qu'après, tu vois, tu as des gens, bah, tu parles avec eux, tu leur apportes de la valeur, tout ça. S'ils n'ont pas besoin de ton service, c'est pas grave, tu vois. Mais un truc cool, c'est qu'après, ils vont te recommander si tu continues d'apporter de la valeur. Donc en fait, si toi, ton seul objectif, c'est le succès de tes utilisateurs, il n'y a aucune raison pour lesquelles ton business ne va pas se mettre à décoller. Et après, nous, de notre côté, on a été, on va dire, assez bon aussi sur pas mal de choses, dans le sens où on a été très transparent. Donc, on a toujours été transparent avec nos utilisateurs. On a une équipe produit qui fonctionne très bien, donc on développe des nouvelles fonctionnalités rapidement. Donc le produit évolue tout le temps très vite. On est tout le temps plus innovant que la concurrence. On rajoute des fonctionnalités que personne n'a. Enfin, tu vois, on arrive toujours à trouver l'edge, donc un point différenciant que nos concurrents n'ont pas en fait. Et ça, tu vois, en fait, petit à petit, ça a permis de créer, de se positionner un petit peu comme les leaders sur cette partie-là. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, tu vois, on a des concurrents, par exemple, qui sont des gros concurrents américains, qui ont levé, je crois, plus de 200 millions, qui se mettent à acheter notre nom sur Google. Parce que, tu vois, comme les gros concurrents. Donc, quand tu t'appelles.
Ça, c'est une consécration, non? Ça, c'est.
Ouais, c'est ça. Et du coup, ça me fait rire. Et parce que, tu vois, eux, je sais qu'ils dépensent beaucoup d'argent pour ça. Donc, en général, ce que je fais quand je vois ça, je fais un screenshot, je fais un post LinkedIn. Et je dis, quand tes concurrents qui ont levé X centaines de millions achètent ton nom sur AdWords, c'est que tu sais que tu es dans la bonne direction, tu vois. Et ça, c'est des posts pareils, tu vois, moi qui reach, je sais pas, 50 000 personnes, quoi. Donc, à chaque fois, tu vois, c'est assez drôle de voir tout ça, quoi. C'est assez drôle de voir tout ça. Et en fait, nous, en gros, si tu veux, globalement, on fait des choses que peu de gens font. Et je pense que c'est un petit peu ça, l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a un moment où il faut que tu sois créatif. Si t'es pas créatif dans ce que tu fais, bah forcément, et si tu fais pas les choses un peu différemment, mais t'auras jamais les résultats escomptés. C'est comme dans notre équipe, tu vois. Genre, typiquement, il y avait plein de gens qui me disaient à partir de 1 million, tu dois recruter des gens ultra expérimentés, machin, machin. Non, tu vois, genre moi, je sais que j'adore, j'ai toujours aimé enseigner, j'ai toujours aimé, tu vois, partager toutes mes connaissances. Et forcément, tu vois, genre j'ai recruté des gens qui étaient pas du tout seniors en business, mais qui avaient l'envie d'apprendre et qui me montraient qu'ils étaient des personnes qui apprenaient vite. Et aujourd'hui, tu vois, toute notre équipe, elle monte en compétences rapidement et c'est cool, tu vois. Et on est à 8 millions, donc on va rapprocher des 10 millions dans les mois qui viennent, donc c'est cool.
Yes. Et est-ce qu'il y a une phase, justement, comme je le disais précédemment, il y a quand même un pic, il y a un moment où ça devient quasi hyper exponentiel, parce que ça fait pas quelques mois que tu avais annoncé d'avoir passé les plus de 3 millions et là on parle de 8 millions. Est-ce qu'il y a une phase comme ça où les chiffres ça devient complètement démesuré? Est-ce qu'il y a une sorte de delta que lorsque tu traverses, je sais pas, le mec de Point Nine Capital, il parlait de c'est de tipping point, je sais pas trop. Comment est-ce que
Ouais, c'est pas un truc qui est palpable, tu vois, parce qu'en gros, on était à 4 millions en décembre 2020, un peu plus de 4 millions en décembre, et là, tu vois, 6 mois plus tard, on a doublé. En fait, j'ai regardé les chiffres et en gros, je me suis rendu compte qu'on doublait tous les 6 mois depuis 18 mois. Mais en fait, c'est juste que là, on arrive à des sommes, tu vois, qui sont juste énormes, en fait. Donc, et clairement, après, c'est pas un rythme que tu gardes, enfin, je pense que c'est impossible de garder ça à vie, tu vois. Il y a un moment où tu t'arrives sur, et puis il y a plusieurs phases aussi dans ta croissance. Mais, non, je pense que c'est un mix de plein de choses. C'est à quel point t'as trouvé ton product market fit, à quel point les gens te recommandent, à quel point les gens sont contents du produit. Et après, t'as ce côté. Nous, en fait, aujourd'hui, on dépense 0€ en ads. On n'a jamais dépensé d'argent en advertising. On fait de la prospection. Ouais, si, on n'a jamais dépensé d'argent en advertising.
Ah ouais, ça, je m'attendais pas. Je me disais justement, là, forcément, il y a un petit coup de Google Ads ou.
Non. En fait, tu vois, il y a plein de leviers qu'on n'a pas du tout encore poussé. On n'a jamais fait de Facebook Ads, jamais fait de Google Ads, tout ça.
En fait, vous êtes au début, quoi. Alors,
c'est
le
ça.
Le meilleur arrive, quoi.
Ouais. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est pour ça, tu vois, que je me dis que, en fait, ce qu'on doit réussir à avoir, c'est que, quand ta croissance, elle est essentiellement basée sur le bouche à oreille parce que les gens, ils recommandent du fait que tu leur apportes énormément de valeur, ben en fait, c'est très scalable parce que tu sais que plus tu as d'utilisateurs qui arrivent, plus ces utilisateurs vont recommander à d'autres personnes et plus ils recommandent à d'autres personnes, plus il y a d'autres personnes et ainsi de suite, quoi, tu vois. Donc, nous, c'est vraiment un petit peu notre façon de voir et plus le temps passe et plus on réfléchit, tu vois, à des moyens de faire en sorte d'inspirer et d'aider un maximum de personnes à faire grossir leur business. Donc, d'aller encore plus en haut du funnel et réfléchir à comment on peut faire pour encore mieux les aider, quel type de contenu on peut créer. Et c'est par exemple, tu vois, on a lancé une masterclass récemment où en juste un webinar d'une heure, quand j'ai vendu la masterclass, on a fait plus de $100,000. Et ça montre à quel point les gens, tu vois, ils sont à même de, et ça, c'était un truc purement organique. C'est-à-dire qu'on en a juste partagé dans notre newsletter, sur LinkedIn, etc. Donc ça, tu vois, c'est des trucs. Et dans cette masterclass, que les gens ont pu acheter, ben en fait, il y avait dedans, tu vois, j'explique aussi comment utiliser Lemlist et je me rends compte que les gens qui ont fait la masterclass, ils ont des bien meilleurs résultats maintenant avec Lemlist, donc que ça va être des clients qui vont rester très longtemps. On en a qui venaient de concurrents et qui ont décidé de switcher après la masterclass. Donc en fait, tu vois, il y a plein de choses où tu te rends compte que plus tu apportes de la valeur, plus les gens, en fait, ça leur paraît logique d'utiliser ton produit ou ton service. Et par conséquent, après, si eux, ils ont des bons résultats, il n'y a aucune raison qui fait que ces gens-là vont partir ou ne pas te recommander, bien au contraire, tu vois. Et donc, l'idée, c'est toujours de garder un petit peu ce cercle vertueux où tes clients, tu fais tout pour qu'ils puissent te recommander. Et pour ça, il faut qu'ils aient du succès, tu vois.
Oui, je suis vraiment impressionné. Je m'attendais pas, j'étais convaincu. Forcément, là, vous allez lancer des ads et tout. J'ai hâte de suivre ça. J'imagine que c'est dans le pipe. Et dans les pipes de lancer très rapidement la partie des ads, notamment sur Google ou sur Facebook. Est-ce que toi, à titre personnel, parce que tu restes quand même assez jeune, quoi, je crois que t'as moins de 30 ans, peut-être 28, 29.
Ça va avoir 30 ans, ça y est.
Ouais, la trentaine. Comment est-ce que ça se vit? Est-ce que pour toi, c'était égal ou alors c'est... Qu'est-ce que ça fait à titre personnel de vivre toute cette expérience-là? Parce que c'est, j'ai envie de dire, c'est peut-être une seule fois dans sa vie qu'on peut vivre ce genre de choses.
Bah, c'est assez fou, en fait, hein. Enfin, tu vois, c'est des sommes d'argent qui sont juste, comment dire, tu vois, c'est un truc où je m'y attendais pas quand on s'est lancé, tu vois. Quand on s'est lancé, notre ambition, c'était, OK, nous, on veut essayer de réussir à se payer, quoi. Donc, forcément, tu vois, quand tu passes de « on veut réussir à se payer, garder une petite équipe » à « on est 40 personnes, on fait plus de 8 millions », ouais, ça change ça change la donne, tu vois. Après, c'est un sentiment génial parce que, tu vois, j'ai compris que ce qui me motivait, c'était pas l'argent. Moi, j'ai grandi avec pas beaucoup d'argent et je sais qu'en fait, pendant un temps, tu vois, je pensais que l'argent, c'était vraiment un truc qui allait impacter mon bonheur, etc. Et dans les faits, pas du tout, en fait. Parce que j'ai pas changé, quoi. Tu vois, moi, j'achète toujours mes t-shirts Uniqlo à 5 balles. Tu vois, genre, j'aime bien faire des kebabs avec mes potes. Enfin, tu vois, genre, j'aime les choses simples, en fait. Tu vois, quand je fais du sport, je vais dans la rue. Voilà, tu vois, je suis pas quelqu'un qui a des goûts de luxe, tout ça. Dans les milieux, tu vois, où c'est un peu trop luxueux, machin, tout ça, je me sens pas à ma place et je me sens un peu gêné. Donc, en vrai, moi, ma vie n'a pas trop changé. Après, ce que je trouve fou, c'est juste de me dire que, en fait, on peut impacter déjà la vie. En fait, j'adore ce côté où je me dis qu'on a un vrai impact sur la vie des gens. Et ça, je le vois typiquement parce que, en gros, dans la masterclass qu'on a lancée, j'ai passé beaucoup de temps à faire du coaching avec certaines des personnes. Et en fait, je me rends compte qu'il y en a, tu vois, qui connaissaient pas Lemlist avant, la masterclass, qui ont fait la masterclass et d'un coup, qui se mettent à signer des deals genre à 30, 40, 50 000 dollars. Et donc, ça change totalement leur business. Ils peuvent recruter quelqu'un, ils commencent à grossir. Et en fait, c'est là où tu te dis, putain, en fait, tout ce que tu apportes, ça peut avoir un vrai impact sur la vie des gens. Et ça, c'est trop cool, tu vois. Et c'est surtout partout dans le monde. Donc ça, c'était un point qui me faisait vraiment, qui me motive de ouf, tu vois, c'est de me dire, OK, à quel point j'arrive à transformer la vie des gens de manière positive. Et ensuite, il y a comment est-ce que tu transformes la vie des gens avec lesquels tu travailles. Et ça, tu vois, c'est pareil. Aujourd'hui, on n'a pas d'investisseurs, on a tout fait nous-mêmes. Et en gros, je me dis, moi, les gens que je recrute, je les paye bien ou très bien, voire, et par rapport à la moyenne du marché. Et en gros, on a décidé de rajouter à la fin de l'année un bonus qui est lié au chiffre d'affaires. Et en fait, à la fin de l'année, chaque employé, en fait, personne dans la team, par exemple les équipes commerciales ou marketing, n'ont pas de bonus par rapport à leurs objectifs. C'est juste à la fin de l'année, on prend un pourcentage en gros du profit et on le distribue à tous les employés de la même manière. Et peu importe ton salaire ou quoi, tout le monde aura le même bonus parce qu'on considère que chacun a le même rôle à jouer dans la croissance, tu vois. Et que c'est pas parce que tu fais du produit ou que t'es dev ou quoi que justement tu devrais avoir pas de bonus alors qu'un sales devrait en avoir parce qu'il a closé un deal, tu vois. Et donc, en fait, on essaie de faire ça pour vraiment garder ce côté famille, unité, tout ça. Et à la fin de l'année, là, tu vois, en décembre, je pense que chacun va toucher entre 15 et 25 000 euros de prime. Tu vois, ce qui est un montant qui peut te changer, tu vois, avec 15 à 25 K. Tu peux avoir un début d'apport pour un appart. Enfin, tu vois, tu peux faire pas mal de choses dans ta vie qui changent tout ça. Et quand je vois ça, enfin, tu vois, moi, je me dis, mais c'est trop cool. Je suis trop content de pouvoir le faire, tu vois, parce que c'est génial de te dire que tu crées une équipe avec que des gens avec qui tu as envie de bosser, que tu bosses sur un projet qui change un peu la vie des gens un peu partout autour de toi et aussi dans le monde. Et pouvoir continuer à faire ça, c'est juste génial, tu vois.
C'est trop cool. Mais est-ce que toi, est-ce qu'il y a une dichotomie ou alors j'ai envie de parler d'un sujet qui tient à cœur, quelqu'un que tu connais très bien qui s'appelle Grégoire Gambato, concernant justement ce point de lever des fonds. Est-ce que tu penses pas qu'il y aurait des personnes qui pourraient avoir ou qui ont même le même impact que ce que tu essaies de vouloir faire, mais en levant aussi des fonds, en ayant tout simplement une relation saine avec justement leurs investisseurs, parce que peut-être ils sont dans un marché hyper hyper concurrentiel. Je dis pas que c'est pas ton cas, tu l'as bien spécifié tout à l'heure, mais il faut qu'ils aillent hyper hyper vite, sinon ils se font écraser, sinon ils disparaissent, quoi.
Je pense que c'est en fait. Moi, je suis pas contre la levée de fonds. Je pense qu'il y a plein de cas où c'est essentiel de lever des fonds. Comme tu le dis, tu vois, tu as des marchés où tu n'as pas forcément trop le choix si tu as envie d'être leader, etc. Par contre, tu vois, je sais très bien que si tu lèves des fonds, il y a plein de choses que tu peux pas faire d'un point de vue financier, tu vois. Genre, les fonds, ça sera très difficile de leur dire qu'à la fin de l'année, tu vas donner, je sais pas, plus d'un million d'euros à tes employés, tu vois. Genre, c'est pas forcément dans leur objectif. Ce qu'ils te diraient, c'est non, tu vois, ce million, faut que tu l'investisses pour grossir encore plus vite. Et donc, en fait, il y a des fois où je pense que ce qui est problématique aujourd'hui, c'est pas tant la levée de fonds. C'est juste que comme tu as tellement d'argent qui est disponible, aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de liquidités partout dans le monde, qu'en fait, on arrive à il y a des personnes qui lèvent à des valorisations qui n'ont aucun sens, qui prennent l'argent, qui vont tout dépenser et qui vont faire exploser leur boîte. Et en fait, le truc, c'est que pour moi, une boîte, enfin, tu vois, genre, aujourd'hui, on a la trajectoire parfaite avec l'Aimlist. C'est-à-dire, croissance exponentielle, tout va ultra bien, tout le monde est très content, tout ça. Mais en fait, rien ne nous dit qu'à un moment, on va pas commencer à rencontrer un plateau ou un mur ou un truc comme ça et qu'il va falloir réfléchir à comment faire pour passer au stade d'après, tu vois. Et ça, en fait, tu vois, c'est des trucs qui peuvent arriver aussi quand tu lèves des fonds. Et en fait, le problème, c'est que quand tu lèves des fonds, par définition, tu n'es pas rentable. Parce qu'en fait, ton objectif, c'est de dépenser plus que ce que tu gagnes pour financer ta croissance. Parce que tu considères que ce qui est important, c'est l'argent que tu vas faire dans le futur et ta valorisation. Sauf qu'en fait, ce problème-là, c'est que, imagine, tu rencontres un mur et que tu continues de brûler autant d'argent, mais que ta croissance n'est pas adaptée à ce que tu avais prédit. Mais en fait, tu te retrouves dans une position où c'est tes investisseurs qui vont décider si oui ou non, tu peux garder ta boîte. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, ça veut dire que si tes investisseurs te disent, bah non, on va pas te suivre et on pourra pas mettre plus d'argent, parce que je trouve que la croissance, bah, elle est pas ouf et on n'arrive pas à comprendre pourquoi pour l'instant. Mais en fait, ça veut dire que tu dois virer, par exemple, la moitié de ton équipe, tu vois. Et d'un point de vue perso, c'est un truc ultra difficile à faire. Alors que nous, tu vois, on a ce côté où on maîtrise notre croissance. Nous, on est, chaque mois, on fait beaucoup de profits. Tout est bien calculé, tout est bien calibré. Et j'ai cette paix d'esprit où je me dis, c'est vraiment moi qui suis aux commandes de tout ce que je fais, tu vois. C'est beaucoup plus sain, ça met moins de pression sur les équipes. On peut prendre notre temps si on a envie de prendre notre temps. Tu vois, il y a plein de choses, en fait, qui rentrent en compte dans la création d'un business et qui sont pas uniquement ta croissance ou tes chiffres, tout ça. Évidemment, tu vois, genre là, on est en hyper croissance, donc on a la place un peu du roi et c'est cool, tu vois. Mais dans les faits, moi, ce qui m'apporte le plus de bonheur et de paix d'esprit, c'est pas tant cette hyper croissance, c'est plus le fait de me dire, aujourd'hui, je fais ce que je veux, en fait. Et ça, en tant qu'entrepreneur, c'est ça, tu vois, le vrai luxe, c'est ça, la liberté, en fait. Et la raison pour laquelle j'ai monté une boîte, c'est pour ça, c'est pour être libre, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, qui, malheureusement, se font un petit peu alpaguer par les feux des projecteurs parce que c'est facile de lever, d'avoir son article dans TechCrunch, tout ça, mais qui, derrière, le regrettent fortement, tu vois. Et des entrepreneurs qui lèvent, j'ai plein de potes à moi, hein, tu vois, qui ont levé des très, très belles sommes d'argent et je connais aussi très bien ce qui se passe dans les coulisses. Et les coulisses, c'est souvent pas aussi joli que ce qu'on peut voir dans les articles de presse. Après, il y a des très, très belles histoires. Et quand tout fonctionne, c'est génial, tu vois. Il y a jamais de problème et c'est encore plus décuplé, tu vois. Mais quand il y a un petit grain de sable ou un truc qui va pas, là, c'est aussi décuplé et ton grain de sable, il se transforme en un rocher, quoi, tu vois. Donc, faut faire attention. Mais après... voilà, tu vois, moi, j'ai pas d'avis tranché sur la levée de fonds. Je pense que c'est bien dans certains cas. Dans certains cas, ça sert à rien. Et juste, il faut faire aussi avec ses envies, en fait. Mais il faut l'assumer, c'est ça qui est important.
Yes, j'entends, je suis assez aligné avec ça. Pour le coup, ça voudrait dire que... est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de blacklist comme ça lorsque tu refuses 30 millions d'un fonds et ils te mettent comme ça une croix? Parce que là, avec le coup que tu as fait la dernière fois, est-ce que là, j'imagine que ça... ils ont un petit peu là, quoi, c'est...
Bah écoute, en fait, tout le monde me dit ça, mais dans les faits, pas du tout, en fait. Je suis ultra proche de beaucoup de fonds. Je m'entends très bien avec les fonds, que ce soit fonds US ou européens, parce qu'ils ont, en général, il y en a qui ont une très bonne vision de tout ça, en fait, de l'écosystème, de comment, tu vois, là où va le vent. Ils me posent des questions sur certains produits. J'aide aussi certains fonds, tu vois. Il y a beaucoup de fonds qui m'envoient des messages en mode... qu'est-ce que tu penses de ce produit? Où est-ce que tu le vois aller? Dans quelle direction? Est-ce que tu trouves que ça a de la valeur? Oui, non, etc. Et du coup, non, je m'entends très bien. Et puis ceux qui nous avaient fait l'offre, en vrai, on est resté très proche avec eux. Et après, en fait, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que les gens pensent que les fonds, c'est uniquement des gens qui donnent de l'argent à la boîte pour accélérer ton business. Mais parfois, tu peux te retrouver avec des fonds qui comprennent très bien ton business et qui sont OK pour faire ce qu'on appelle du cash out, c'est-à-dire qu'au lieu de donner de l'argent pour faire une augmentation de ta capital à ta boîte, en fait, ils te donnent de l'argent en direct. Donc, en gros, c'est toi qui prends de l'argent en tant que fondateur et toi, ça te permet de dérisquer un maximum ton business. Donc, en fait, il y a plein de choses dont on parle pas trop parce que les gens ont du mal à parler d'argent, que ce soit en France ou même parfois un petit peu à l'étranger. Et du coup, bah oui, non, clairement, tu vois, t'as plein de choses qui sont possibles et c'est un milieu qui reste assez intéressant et qui permet aussi de booster les fondateurs à faire des choses encore plus grandes parce que à partir du moment où tu dérisques ton business à fond, bah toi, t'es beaucoup plus ambitieux dans les choix que tu fais, tu prends un peu plus de risques et c'est aussi cool, tu vois.
Yes. On n'a pas préparé ça en off, mais on n'est pas obligé de l'aborder si tu ne veux pas. C'est plus sur LinkedIn. Je sais que tu avais lancé une autre boîte qui t'a valu d'être banni de la plateforme. Est-ce que c'est OK pour toi qu'on en parle ou tu...
Ouais, bien sûr.
OK. Est-ce que tu peux nous parler comment... Parce que je crois que c'était non, je me rappelle plus du nom.
L'Empod, ouais.
L'Empod, ouais. Déjà, l'idée, comment est-ce que l'idée t'est venue en tête et comment est-ce que tu as réussi à monter ce truc en parallèle de ce que tu faisais déjà avec l'Empod qui te prenait forcément tout ton temps?
Ouais, c'était pas facile. Alors, l'Empod, en fait, c'est venu, on était parti avec mes associés en Founders Retreat. Donc, on est parti à l'étranger pour discuter un petit peu. Et à la fin, une question qu'on aime bien se poser, c'est si on pouvait lancer un projet from scratch, qu'est-ce que ça serait, tu vois? Et là, moi, je leur ai dit, franchement, les gars, je suis dans plein de groupes Slack, Messenger, etc., avec des marketeurs, des founders et tout. Et tout le monde met ses posts LinkedIn pour que les gens du groupe cliquent et aillent liker, aillent engager, tu vois? Et je trouve que c'est vraiment le truc le plus con à faire sur Terre parce que ça fait perdre du temps à tout le monde. Alors que tu fais confiance aux gens avec qui t'es, et techniquement, tu pourrais faire un auto-like. On discute de ça, et puis moi, je leur dis, je suis sûr que ça va marcher, machin. Vianney et François, ils réfléchissent, et puis ils disent, vas-y, bah, on part à une conférence, on va voir si on peut coder un truc. En deux jours, ils sortent une première extension de Chrome, et là, moi, dès qu'ils me disent, on a l'extension Chrome, boum, je contacte mon réseau, d'un coup, on a 150 personnes qui sont dessus, et là, bouche à oreille, et en moins d'un mois, on est à 1000 personnes. Très rapidement, en fait, ça devient la plus grosse marketplace au monde de pods. Donc, les pods, c'est des groupes où les gens se mettent entre eux. Et donc, moi, l'idée, c'était de dire, ben, ouais, j'ai juste voulu automatiser des trucs qu'on faisait déjà à la main. Sauf qu'en fait, très rapidement, je me suis rendu compte qu'on avait un peu créé un monstre dans le sens où, comme on était devenu la plus grosse marketplace de pods au monde, on avait des gens qui venaient juste pour acheter du like et du commentaire. Et qu'en fait, les interactions, elles étaient plus du tout... genuine, tu vois, ça venait même pas des gens de ton réseau. C'était en fait ce que les gens voulaient, c'était des likes de partout. Et donc, on avait des gens qui, des scammers, donc des gens, tu vois, qui faisaient des posts de merde sur LinkedIn et puis soit des posts racistes, soit des posts religieux, soit des posts, tu vois, et qui venaient sur l'Empod, qui payaient genre 500 balles pour avoir un maximum de likes pour jouer leur truc. Et donc, en fait, tu vois, on se retrouvait avec des problèmes d'admin, de machin, de trucs. Et à ce moment-là, en fait, le produit, tu vois, il grossissait de façon exponentielle aussi, quoi. Et là, je me suis dit, bah, vas-y, tu sais quoi, genre, on n'a pas les ressources pour gérer la partie tech sur l'Emlist, l'Empod et aussi Market et aussi machin. C'est un produit qui fait beaucoup de cash. Je pense qu'on peut trouver un acheteur. Donc, j'ai commencé à bosser avec ce qu'on appelle un broker. C'est un intermédiaire qui trouve des acheteurs. Et on a eu pas mal d'offres, dont un groupe d'entrepreneurs en Australie, je peux pas donner leur nom, mais qui était chaud pour reprendre le produit. Et puis, ils étaient OK avec ma vision où je leur disais, bah voilà, il faut que vous focussiez sur la qualité, que vous essayez d'avoir des gens qui puissent venir enlever toutes les personnes qui ruinent un peu tout ça, machin, machin et tout. Et en fait, au moment de la vente, il y a LinkedIn qui nous a contactés pour nous dire que ce qu'on faisait, c'était contre leur term and service, etc., machin, machin. Sachant que LinkedIn, en fait, légalement parlant, tu vois, ils ont aucun droit parce qu'en fait, tout leur procès sur de l'automatisation sur leur plateforme, ils l'ont perdu. Donc en fait, tu vois, tu peux avoir des term of services qui disent quelque chose, mais légalement, c'est pas forcément recevable. Et ce qui était le cas dans leur cas. Donc moi, je me suis dit, bah, de toute façon, nous, on a vendu la boîte, donc je leur envoie un message, bah, on a revendu le projet. C'est plus nous qui sommes en charge. Et après, ils m'ont dit, bah, dans ce cas-là, tu me donnes le nom du vendeur, enfin, de l'acheteur, pardon. Et là, je leur ai dit, bah, je peux pas, tu vois, on a signé un NDA et dans le contrat, on peut pas disclose de donner le nom publiquement de la personne qui a racheté. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous donner le nom du broker qui, lui, va faire une lettre pour assurer que c'est pas moi qui ai racheté le business ou que je suis plus impliqué là-dedans, quoi. Et on a fait ça et LinkedIn s'en foutait et donc, du coup, ils ont décidé de bannir mon profil LinkedIn où j'avais, je sais pas, quasiment 20 000 ou 25 000 followers. Je faisais des posts, tu vois, qui étaient vus par des millions de personnes, tout ça, tout ça. Et donc, j'ai essayé de revenir cet hiver avec le mouvement Free Guillaume Houbèche. Il y a un hashtag qui a été lancé.
Je m'en rappelle.
Ça a fait pas mal parler. Donc, les feeds sont devenus tout jaunes, ce qui mettait un carré jaune avec ma photo et tout. Bref, c'est parti en couille. Et en gros, LinkedIn, j'avais des contacts qui étaient bien placés, enfin, qui connaissaient des gens très bien placés chez LinkedIn. Et en gros, ils ont dit qu'ils m'avaient mis sur une full blacklist où je pourrais jamais revenir. En fait, ils m'ont dit que je pourrais plus jamais revenir sous mon nom Guillaume Houbèche sur LinkedIn. Donc, en gros, maintenant, j'ai un nouveau profil que j'ai créé qui s'appelle G, donc G. Mais je crois que si tu tapes Guillaume Houbèche, en vrai, tu me trouves parce que ouais. Je l'ai mis dans ma description quand même. Et donc, ça, c'était un peu la petite histoire. Et après, tu vois, le truc qui était…
C'est juste toi ou c'est Lemlist? Par exemple, la page Lemlist LinkedIn, elle existe
toujours? Non, Lemlist, elle existe. La page Lempod, elle existe plus, mais la page Lemlist, elle existe. Ce qui était cool, c'était d'avoir pu revendre un business, tu vois, en étant assez jeune. Et c'était un business qu'on avait monté à 600 000 euros d'ARR en un an.
Ah ouais, c'était un petit truc, ça.
Ah non, en vrai, tu sais que ce projet, il grossissait plus vite que Lemlist à la même époque, quoi. Tu vois, enfin, genre, En fait, Lemlist était devenu… En fait, si tu veux, la première année de Lempod, c'était une meilleure première année que la première année de Lemlist. Par contre, après, Lemlist, quand on était en parallèle, Lemlist grossissait beaucoup plus vite parce qu'il était à un stade encore plus élevé. Mais genre, on était sur un truc où ça bougeait très vite. C'était assez fou. C'était assez fou.
Et avec ce genre de projet, peut-être sans aller forcément dans les détails, est-ce que tu me donnes une tarée de combien est-ce que ça se vend, ce truc? Juste une tarée comme ça.
Pour ce genre de projet, en fait, t'as un multiple qui est entre… En fait, ça dépend de plein de choses, mais c'est entre 2 et 4 sur ton revenu récurrent annuel.
C'était une vraie bombe, ce truc.
Ouais, c'était une vraie bombe. Mais après, nous, de notre côté, enfin, moi, je suis assez transparent là-dessus. En fait, au final, comme il y a eu la lettre de LinkedIn, etc., et que ça a rajouté un risque au moment de la revente, on n'a pas pu être dans ces… On avait eu une première offre qu'on a du coup dû refuser à cause du message de LinkedIn et pour être en tout transparent avec les acheteurs, quoi, tu vois. Mm-hmm. Et du coup, on a revendu à un prix beaucoup plus faible. Mm-hmm. Mais c'était quand même intéressant, quoi. Enfin, pour nous, c'était quand même cool. Parce qu'il y avait quand même le risque de LinkedIn qu'on n'avait pas envie de porter sur les épaules. Donc, ça nous a permis de faire une belle revente avec pas aussi élevé que ce qu'on avait au début, mais en vrai, négocier un truc qui permet d'enlever du risque pour chaque personne et rendre tout le monde content. Mais après, le problème, tu vois, c'est que les gens à qui on a racheté, et ça, c'était une bonne leçon aussi, c'est que quand ton business est racheté, tu contrôles plus ce qui se passe après, tu vois. Donc, eux, ils étaient OK avec tout ce que je leur avais donné en termes de vision, tu vois, mais dans les faits, ils ont rien mis en place, quoi. Donc, tu vois, c'est toujours ouais. Un truc ouais. Où, bon.
Je pense que ça existe encore, moi, sauf s'ils ont changé le nom.
Pardon, ouais, ça existe encore. Ça existe encore. Mais je sais pas trop ce qu'ils font encore, franchement.
Ok. Ouais. Bah, qu'est-ce que toi il y a des grands learnings par rapport à cette expérience en parallèle avec Lemlist. Qu'est-ce que toi tu retiens en fait de cette petite expérience en parallèle avec Lempod?
Bah écoute, c'était cool de pouvoir manager plusieurs projets. Moi, j'ai vu que sur la partie business, je m'en sortais plutôt bien avec deux projets, que c'était pas un gros problème, mais qu'après, c'est vrai que si tu as vraiment envie de booster quelque chose, il faut que tu aies du focus. Et le focus, ça c'est pas un truc, tu vois, ou que tu peux avoir quand tu as 1000 projets, quoi. Après, il y a ce côté où quand toi, tu vois, tu prends un peu de la distance par rapport au business. C'est bien de te passer du temps sur certaines parties. Tu vois, par exemple, je pouvais aller sur l'M-Pod, tester des trucs, voir que ça marchait bien et ensuite les réappliquer à l'M-List, tu vois. Et donc ça, tu vois, c'est des trucs aussi qui sont assez cool et que j'aime bien dans le fait d'avoir plusieurs projets. Après, voilà, hein, tu vois, c'est un truc où clairement, quand tu es focus sur un business, il y a un moment où ça vaut le coup de l'être, quoi, tu vois, et de mettre tous tes œufs dans ton même panier, dans le même panier, parce que en vrai, tu vois, aujourd'hui, avec l'argent qu'on rajoute tous les mois, par exemple, sur le MRR de l'M-List, il nous faudrait, je sais pas combien d'années pour arriver, si on reprenait un SaaS, tu vois, si on recréait un logiciel from scratch, il nous faudrait, je sais pas, 1 an et demi pour arriver à ce, ou 2 ans, tu vois, pour arriver à ce revenu. Donc, en fait, tout ce que tu rajoutes, tu vois, c'est l'intérêt cumulé, quoi. Donc, c'est vraiment, il y a un moment où tu te dis, bah non, tu vois, il y a plus le choix, quoi. Faut être à fond et puis,
Yes. Là, je voudrais qu'on parle un petit peu de ta chaîne YouTube que tu as lancée. Comme je te disais en off, j'ai beaucoup adoré le concept de challenge et au point où je m'en suis inspiré. Je dirais, j'ai plagié, je l'avoue, mais je pense pas que tu m'en voudras parce que c'était dans un
T'inquiète pas.
contexte qui... pour ma partenaire Nelly, on a fait pareil pour lancer sa chaîne YouTube. On n'a pas pu atteindre les 1000 abonnés comme toi à la fin du challenge, mais au moins ça a permis de lancer déjà sa chaîne, d'aller toucher presque les 300 abonnés.
Trop cool.
Et moi, j'ai grave kiffé l'idée, le concept, comment est-ce que tu as lancé tout ça. J'ai beaucoup appris aussi parce que c'était très dur, c'est très dur. 30 vidéos en tous les jours comme ça, donc tous les jours on était vraiment en sueur. Pendant le même moment, tu es en train de développer la boîte et tout, c'était vraiment difficile. Tout le monde s'est mis dessus. Je voulais que tu nous parles de ça déjà, de pourquoi est-ce que tu as lancé une chaîne YouTube et ensuite des coulisses en fait de cette chaîne YouTube.
Ouais, alors la raison pour laquelle j'avais lancé la chaîne YouTube, c'est bah déjà à l'époque j'étais banni de LinkedIn, donc je me suis dit bah tiens c'est cool, je vais tester un autre réseau social. Et en parallèle à ça, en fait, on avait pas mal recruté. Et je remarquais que les profils qu'on avait recrutés, ils avaient un peu peur de tester des choses, ils avaient peur de se tromper, ils avaient peur d'échouer. Et donc je me suis dit, bah je vais leur montrer l'exemple, tu vois. Je vais leur montrer qu'on peut se lancer un défi qui a l'air un peu fou, tu vois, faire 30 vidéos en 30 jours sans avoir forcément les idées de vidéo au début. Juste se lancer, tu vois, et leur montrer qu'en fait, ce qui est important, c'est de faire le premier pas. L'être humain, globalement, il avance seulement en se mettant en déséquilibre, tu vois. Et le déséquilibre, c'est une sortie de ta zone de confort. Donc à partir du moment où tu fais ton premier pas, ce qui est le plus difficile à faire, bah, tu te rends compte que tu peux en faire un deuxième et ainsi de suite. Et c'est comme ça que tu avances, tu vois. Et donc du coup, mon objectif, c'était vraiment ça, tu vois, montrer à l'équipe dans un premier temps qu'on pouvait se mettre en dehors de sa zone de confort, que c'était OK, c'était un échec. Parce que tu vois, il y a des vidéos qui ont bien marché, il y en a d'autres qui n'ont pas du tout marché. Et c'est normal, et c'est pas grave en fait. Ce qui est important, c'est que moi, tu vois, j'ai appris énormément, je me suis boosté, ça m'a intellectuellement parlant, c'était un vrai challenge. Et en fait, les gens ont vu ça et ça les a grave motivés. Et à côté de ça, mon objectif, tu vois, c'est d'aider vraiment 1 million d'entrepreneurs et d'inspirer 1 million d'entrepreneurs à lancer un business rentable. Donc, de leur donner des clés, des conseils, de l'inspiration, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte, tu vois, que bah, ça a marché, quoi. Et qu'il y avait des gens, tu vois, qui petit à petit, ils suivaient les conseils, ils disaient, tiens, c'est trop génial, je viens d'appliquer ça, je viens de faire ci, je viens de faire ça. Et du coup, c'était trop, trop cool. Et petit à petit, en fait, je me suis dit, bah, go, tu vois, on va essayer de faire de plus en plus de contenu sur YouTube. Là, j'ai lancé récemment un vlog où je parle un peu de tous les behind the scenes de l'AMList, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Et évidemment, tu vois, il y en a qui ont bien marché, où on faisait un peu plus de 5 000 vues. Il y en a d'autres qui ont moins marché, où on est à 1 200, entre 1 200 et 2 000 vues. Mais en vrai, je m'en fous, tu vois. Moi, ce qui est important pour moi, c'est de me dire, OK, tu vois, genre dans 1 an, ça fera, tu vois, si tu le fais toutes les semaines, bah, tu seras à 56, tu vois, 56 vidéos en plus. Et c'est énorme, tu vois, ça fait beaucoup de contenu. Ça fait un truc que tu peux toujours regarder, où tu peux toujours retourner les voir. Et c'est des trucs où, en fait, tu te dis, ça reste. Et c'est ça qui est important, tu vois. Et donc, je me suis dit, bah, go, on lance ça. Et après, bon, le challenge des 30 jours, ça, c'était un peu intense. Mais au final, ouais, non, les résultats, ils étaient très positifs.
Et comment est-ce que vous l'avez fait? Combien de vidéos déjà vous avez lancées avant de commencer à publier officiellement le challenge? Ben moi, pour notre cas, par exemple, je sais pas, tu vas nous raconter pour ton cas, on a pris à peu près une semaine et demie pour tourner déjà eu à peu près la moitié des vidéos, et ensuite il fallait les découper. Mais dès qu'on a commencé à publier la première vidéo, on était en train de courir tous les jours. Tous les jours, on n'a pas respiré un seul jour. C'était la pression tout le temps. Parfois, on a terminé de monter une vidéo peut-être 15 minutes avant l'heure officielle de publication, quoi. Je sais pas comment
Ah
pour toi, comment c'était.
ouais, nous aussi ça a été ça a été un peu la galère. Par contre, on avait fait moins de vidéos au départ. Je pense qu'on avait shooté qu'une vidéo en fait au début, et après en fait ce qui était dur, il y a eu des moments où en fait on s'est dit ok, on va en shooter. En fait au début on faisait vraiment vidéo par vidéo, c'est-à-dire que tous les jours on shootait, et après pour le week-end on savait qu'il fallait qu'on ait de l'avance, donc on essayait d'en record 2-3, tu vois, le vendredi ou tout ça. Mais en vrai c'était compliqué, et puis en fait après on a réussi à prendre un petit peu d'avance. On n'a jamais eu plus de une ou deux vidéos d'avance, quoi. Donc c'était tout le temps en pression. Et en fait, 30 jours d'affilée, c'est vraiment le truc. C'est là où tu comprends à quel point les week-ends, c'est important. Parce que tu sais, genre, t'as besoin de te reposer, t'as besoin de déconnecter. Et quand tu peux pas le faire, ouais, c'est vraiment dur, quoi. C'est vraiment dur.
En
Donc,
plus,
ouais.
c'est plein de trucs en même temps. C'est pas juste la vidéo qu'on tourne, il faut la monter. Il y a
Ouais,
des
non, non.
miniatures, il y a le descriptif, il y a le script même, parce que c'était vraiment scripté. Même si on s'est complètement inspiré de ce que tu as fait, c'était scripté quand même, tu vois. Et il faut faire le suivi, faire bosser tout le monde ensemble. Pour moi, c'était l'un des trucs les plus durs que j'avais fait ces derniers temps, quoi. Peut-être parce que c'était avec plein de personnes en même temps, quoi, qu'il fallait contrôler.
Ouais, non, non, mais ouais, c'est clair, t'as pas le choix, quoi, t'as pas le choix.
Nice. Ok. Aujourd'hui, est-ce que avec ta chaîne LinkedIn, là, je sais que ta chaîne LinkedIn, tu as quand même plus de 15 000. Est-ce que tu réussis à avoir les riches que tu avais à l'époque lorsque tu n'étais pas encore fait bannir de LinkedIn?
C'est pas exactement la même chose. Non, j'ai un peu ça dépend, tu vois, ça dépend globalement. Enfin, tu vois, tous mes posts, ils font ça va un petit peu dépendre, tu vois. Mais genre, je pense qu'un post qui fait pas beaucoup de riches, pour moi, il doit faire 15 000 vues, tu vois. Mes posts en moyenne, ils sont plutôt aux alentours, je regarde là, hein, mais ils sont plutôt aux alentours genre de je sais pas, ouais, 30 40 000 vues. Et ceux qui marchent bien, ils vont faire 100 000, 150 000 vues, tu vois. Après, je poste 4-5 fois par semaine. Donc, tu vois, ça fait, au final, ça s'ajoute, ça fait beaucoup, quoi.
Nice. Est-ce que tu aurais peut-être des regrets sur les 4, les 5 dernières années? Est-ce que t'as des trucs que tu regrettes particulièrement?
Bah, moi, j'aime pas trop vivre dans le passé, tu vois. Je me dis que c'est pas très productif, parce que c'est, tu peux pas changer ton passé. Mais donc, non, je regrette rien, parce que tout ce que j'ai fait, c'est ce qui m'a permis d'arriver là. Après, si je ferais les choses différemment, tu vois, évidemment, je pense que je me lancerais beaucoup plus tôt, tu vois. J'aurais commencé, je suis pas sûr que j'aurais fait autant d'études. Je pense que je me serais lancé beaucoup plus rapidement dans l'entrepreneuriat. J'aurais sûrement aussi appris à coder quand j'étais au collège, lycée, tu vois, où tu te disais que ça te servirait à rien, mais en vrai, si, c'est grave utile. Donc, plein de choses, tu vois, que j'aurais commencé plus tôt. Mais après, non, aujourd'hui, pas de regrets, et je suis content d'être là où je suis en ce moment, quoi.
Tu touches un peu du code, hein, avec ou c'est toujours
Non,
Vianney et
non,
son
non, non,
frère.
non, non, jamais, je laisse ça à Vianney et François. Après, moi, j'ai des petites bases en HTML, CSS, tu vois, je comprends une page web, je sais comment c'est structuré, je sais comment changer deux, trois trucs. Et j'avais fait un peu de C en ingénieur, en école d'ingénieur, mais ça n'a aucun intérêt.
T'aurais des petites recommandations pour nous, peut-être des bouquins, des podcasts, forcément ta chaîne YouTube.
Ouais, allez, allez checker YouTube.
On va mettre
Non,
les liens
non,
en
mais
description.
en gros, dans les livres qui sont cool, moi j'aime bien les livres un peu d'entrepreneurs. Donc, Delivering Happiness de Tony. Et je sais plus comment c'est, j'arrive jamais à me souvenir de son nom de famille. Il est décédé récemment, c'est un peu triste. Mais c'était un mec qui avait créé Zappos, qui a été racheté à plus d'un milliard par Amazon. Et il te raconte toute son histoire. Lui, c'est un entrepreneur dans l'âme depuis qu'il est petit. Enfin, c'est vraiment ouf.
Ah, je me rappelle
Ouais.
qui c'est un Asiatique, non? Qui fait il
Ouais, c'est
envoyait
ça.
les chaussures aux gens pour mesurer à la maison et qui
C'est
pouvait les
ça, c'est
revoir.
Tony HSAO ou un truc comme ça, ou Tsao ou un truc comme ça. Ça, c'était cool. J'avais bien kiffé Lost and Founder de Ren Fishkin. C'est une bonne inspiration, parce que, en fait, moi, ce qui m'inspire, honnêtement, et là où je, C'est que en vrai, tu vois, là, on parle de l'M-list, l'hypercroissance, tout ça, mais dans les faits, tu vois, c'est toujours des hauts et des bas, quoi. Mm-hmm. T'as des ascenseurs émotionnels constamment. Il y a des fois, tu penses qu'un truc va super bien marcher, t'es trop content. En vrai, c'est un échec total. Enfin, donc, tu vois, c'est plein de trucs comme ça. Et en fait, l'idée, c'est ce que je kiffe, c'est quand j'ai des entrepreneurs qui partagent leurs moments difficiles, tu vois, parce que c'est ça qui te motive. Parce que tu dis que t'es pas le seul et que c'est cool, qu'il faut s'accrocher et que c'est comme ça que tu vas te développer. Donc, ouais, non, ça, c'est deux livres que j'avais vraiment bien kiffé. Et puis après, non, franchement, dans les ressources, ouais, faut essayer d'intégrer un maximum de communautés, rencontrer un maximum de personnes. Et c'est ça qui t'aide à te développer, tu vois. Puis après, faut faire et apprendre par soi-même.
Yes. Avant qu'on se sépare, Guillaume, j'ai encore deux, trois questions, s'il te plaît. Dis-moi, comment est-ce que toi, tu progresses? Comment est-ce que tu progresses aujourd'hui?
Moi, j'ai des phases, en fait. Je fonctionne dans des phases d'apprentissage et dans des phases après d'application. Donc, en général, tu vois, mes phases d'apprentissage, c'est je vais me mettre à lire beaucoup de livres, donc sur un sujet en particulier. Je vais essayer d'absorber énormément de connaissances, d'aller lire des articles de blog, etc. Et après, je vais avoir une phase où je vais plus du tout lire. Je vais totalement arrêter de lire et je vais juste créer, tu vois. Donc, en fait, je fonctionne. Il y a des gens, tu vois, qui aiment bien avoir de la régularité dans tout ce qu'ils font. Moi, je suis plus quelqu'un de cyclique. Je pense que c'est important de se connaître. Donc, tu vois, ça va être... j'essaye d'apprendre en fonction des problèmes que je rencontre. OK, quel livre sera adapté pour apprendre X, Y, Z? Quel article de blog est cool? Comment est-ce que je peux mettre, en fait, tout ça et l'appliquer, moi, dans mon business? Me faire un peu des résumés, tout ça. Donc, ça, c'est un peu ma façon. Formation, évidemment, franchement, tu as tout sur Internet, quoi. Il y a tout sur Internet, il y a tout dans les livres. Donc, tout est à la portée d'un ordinateur.
Yes. Là, tu as parlé de l'Emblis avec à peu près 40 collaborateurs. C'est toi qui fais les recrutements ou c'est tout le monde?
On se partage ça avec Vianne et François, mes associés. Sur la partie business, ça passe toujours par moi, ouais.
Est-ce que tu as des échecs à ce niveau-là? Enfin, pas des échecs,
Ouais, des mauvais recrutements, ouais. Mais ils sont plus avec nous. mais c'est très difficile. Hein. Le recrutement, c'est le truc le plus dur. C'est le truc le plus dur dans une boîte et pourtant, c'est le truc le plus clé. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est le plus important, c'est de recruter par rapport à ses valeurs. Il faut bien établir les valeurs de sa boîte et à partir des valeurs, tu peux recruter. Parce que si les personnes n'ont pas les mêmes valeurs, il y a un moment où tu ne seras pas aligné, tu vois. Et je pense que c'est la même chose dans un couple, tu vois. Si tu n'as pas les mêmes valeurs avec... la personne avec qui tu vis, au bout d'un moment, peu importe ce que tu ressens, ça va clasher en fait et ça ne fonctionnera pas. Alors que quand tu as les mêmes valeurs, c'est un peu comme si tu étais sur la même longueur d'onde, tu vois, sur en tout cas sur la partie, je dirais, la plus importante. Donc en gros, moi, ce qui se passe, c'est que j'essaye d'avoir une communication assez ouverte avec tout le monde pour que les gens comprennent que si ils matchent pas avec la boîte, c'est pas grave en fait, c'est pas un échec. Ce qui est important, c'est qu'ils trouvent... Parce qu'en fait, si tu te sens pas bien dans une boîte, tu seras pas bon dans ton job, en fait, tu vois. Et si t'es pas bon dans ton job, tu seras pas épanoui. Et si t'es pas épanoui, en fait, ta vie, elle est nulle. Enfin, tu vois, on passe énormément de temps au travail aujourd'hui. Quand tu regardes par rapport au nombre d'heures que tu passes à travailler versus genre le taf, un petit peu de loisirs, d'amis, de potes, tout ça, et après du sommeil, tu vois. Et le truc, c'est que, évidemment, enfin, si tu considères le travail comme quelque chose, c'est un fardeau ou t'es en souffrance tout le temps, change de taf, en fait. Aujourd'hui, tu peux tout apprendre sur Internet, tu peux tout faire. Enfin, tu peux vraiment genre te développer comme tu veux et tu peux trouver d'autres tafs. Donc, moi, ce que je dis aux gens, c'est si t'es pas bien, tu vois, dans ce que tu fais, et si à l'entretien, en fait, tu t'es survendu ou que t'as faké, tu vois, quelques trucs, en fait, ça va te desservir. Et donc, après, moi, je suis toujours pour aider les gens à trouver un autre taf. Je sais que t'as évidemment les galères du quotidien qui font que, oui, quand t'as un loyer à payer... Oui, quand t'as des enfants ou des trucs comme ça, c'est compliqué. Donc, en fait, nous, tu vois, si on se rend compte que quelqu'un n'est pas un bon fit et qu'on sait que la personne, tu vois, a des charges à côté qui sont un peu importantes, tu vois, on va faire en sorte de les accompagner pour trouver un nouveau job rapidement et faire une transition qui soit assez smooth, tu vois, et qu'il n'y ait pas de problème de ce côté-là. Mais faut faire attention. Et je pense que avoir un discours très ouvert avec la personne, faire confiance aux gens, c'est super important.
Nice, je te remercie Guillaume. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'oublie de te demander ou que tu aimerais partager que je t'ai pas posé
N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn si vous avez toujours content d'avoir des retours pour ceux qui écoutent le podcast. Si vous voulez voir un petit peu les dessous de l'Aimlist, il y a la chaîne YouTube et le compte Insta. Voilà, voilà.
Yes, sur LinkedIn, c'est, on va mettre les liens en description, mais c'est j.assuré. Donc, je te remercie encore, Guillaume. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, je vous remercie. Comme vous l'avez constaté, on a relancé le podcast. On vous prépare de belles choses dans les prochaines semaines avec plein de profils assez variés entre des entrepreneurs, des sportifs, des artistes pour toujours continuer d'apprendre des autres. Merci, merci, ciao.
Ciao, ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Débrouillard jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager avec votre communauté sur les réseaux sociaux. On adore vous lire. Donc, allez mettre une note 5 étoiles et un gentil commentaire. Ça aide énormément le podcast à être découvert. Je vous rappelle aussi que vous pouvez vous abonner à la newsletter sur debrouillard.io/mail. Je vous envoie chaque dimanche le nouvel épisode directement dans votre boîte mail avec de vrais bons plans. Pour finir, si vous avez besoin d'un soutien opérationnel approfondi dans le financement, l'administration ou le management de votre structure afin de prendre le leadership sur votre marché, toute la team d'Investir à plusieurs va vous chouchouter comme il se doit. Il suffit pour cela de nous écrire à l'adresse suivante debrouillard@investiraplusieurs.com. Je suis Guy Berthold et à bientôt pour un prochain épisode.
Investir à plusieurs.